Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, ça ressemble à s'y méprendre à un déplacement de campagne, mais ça n'est pas un déplacement de campagne, assure Emmanuel Macron, le chef de l'État, à la rencontre des Français pendant deux jours dans le Cher et l'Allier, nous l'avons suivi. Valérie Pécresse battrait Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle, c'est une première pour le président sortant, tous les détails de ce sondage est là, à suivre dans un instant. Plus de 59 000 cas de Covid en 24 heures, record depuis plus d'un an, les enfants sont maintenant les plus touchés. Nous verrons comment les parents accueillent l'idée de faire vacciner leurs enfants. Le PSG a étouffé Bruges ce soir en Ligue des Champions. 4 buts à 1, dont un doublé signé Mbappé. On sera au Parc des Princes. Le temps demain sera souvent très agité, nous préviendra Marlène Duret. L'invité éco, Claire Pénarin, des Traiteurs de France. Les traiteurs qui craignent une nouvelle saison blanche à cause du Covid. Ils demandent des aides d'urgence. Et puis on jettera enfin un coup d'œil aux une des quotidiens de demain matin. Après une tournée dans les pays du Golfe, Emmanuel Macron retourne auprès des Français. Sur le terrain, le chef de l'État n'est pas encore candidat à ses réélections. Il visite ces mardis et mercredis le Cher et l'Allier. Il était aujourd'hui à Vierzon, puis à Bourges. Son entourage y tient. Non, le président n'est pas en campagne. Il est en immersion. Vous l'avez suivi, Jacques Serey.
Oui, un café, une pâtisserie, un magasin de vêtements.
Bonjour, et vous ?
Ça va ? Emmanuel Macron va au contact et les Français l'interpellent. Ici, dans le centre-ville de Vierzon, il doit répondre au mécontentement d'une retraitée.
Je vais vous poser une question.
Dites-moi, madame.
Pour les retraités, vous faites quoi ? Actuellement, rien ? Alors, ceux qui ont des petites retraites, normalement, elle aurait dû être prévalorisée
exactement,
au
ça,
gouvernement.
On l'a fait.
Ah non, vous n'avez rien fait, parce que moi,
si.
J'ai rien.
Vous avez tous vos trimestres ?
Ah, j'ai tous mes trimestres.
On a remonté le minimum vieillesse. Donc, ce qu'on peut peut-être voir, c'est regarder que vous ayez bien fait toutes les demandes pour avoir été éligible à ça. Donc ça, je veux bien je vous envoyer quelqu'un pour qu'on regarde pour vous.
Discussion sans filtre et une déambulation qui aura duré près de 3 heures avant que le président ne se rende à une quarantaine de kilomètres à Bourges. Écoutez des auxiliaires de vie.
Je vous mets à l'aise, c'est-à-dire que dites-moi les choses telles que vous avez de manière intime plutôt envie de me les dire.
Manière pour Emmanuel Macron de prendre le pouls des Français à 4 mois de la présidentielle. En petit comité, hors micro, le chef de l'État a confié ses impressions. On sent une fatigue, que le Covid met un coup au moral, explique Emmanuel Macron, pour qui les Français sont moins positifs qu'il y a 2 mois.
Emmanuel Macron, ciblé de nouveau par Éric Zemmour, qui l'a traité ce matin de « type qui n'est pas fini », ce sont ses propres mots, d'adolescent qui se cherche. Aujourd'hui, Jacques, le chef de l'État n'a pas voulu donner suite.
Oui, le président ne répond pas directement à ses propos, mais il a tout de même lâché quelques mots suite à l'interpellation d'un habitant qui se dit insulté tous les jours par Éric Zemmour.
Non, il faut apaiser tout ça.
Ah non, ça va apaiser.
Il faut prendre de la hauteur. Mettre du calme. Notre pays, il a besoin d'ambition et de bienveillance. Il n'a pas besoin de se déchirer.
Pas besoin de se déchirer, dit Emmanuel Macron, qui compte bien montrer qu'il est au-dessus de la mêlée, tout en faisant campagne.
Jacques Serey à Bourges, dans le Cher, pour Europe 1. Emmanuel Macron regagnera l'Élysée demain soir et c'est sûrement ce sondage qui sera encore tout en haut de la pile sur son bureau. Valérie Pécresse, gagnante de l'élection présidentielle. Sondage Elabe, la candidate LR serait élue présidente à 52% contre 48% dans le cas d'un duel de second tour avec Emmanuel Macron. La présidentielle est certes encore loin et bien sûr les lignes peuvent et vont certainement bouger. Mais pour la première fois, Alexandre Chauveau, Emmanuel Macron n'apparaît plus invincible dans les urnes.
Oui, et c'est le principal enseignement de ce sondage, preuve que la dynamique est puissante, fait-on savoir dans le camp Pécresse, et surtout qu'Emmanuel Macron est battable, et ce uniquement par elle, le président de la République donné perdant pour la première fois et qui ne recueillerait que 23% des suffrages au premier tour. Score assez bas, qui est même inférieur à ce qu'il avait obtenu pour se qualifier en 2017. Alors indéniablement, Valérie Pécresse bénéficie de la dynamique du Congrès. Elle prend 11 points de plus par rapport au dernier sondage réalisé par le même institut fin novembre et atteint les 20% d'intention de vote au premier tour. Mais pas question non plus de s'emballer dans l'équipe de la candidate qui a bien conscience de l'effet grossissant du Congrès. En 2016, François Fillon était crédité de 30% d'intention de vote après sa victoire à la primaire de la droite. Une dynamique dont avait également profité Benoît Hamon en remportant la primaire de la gauche en janvier 2017. Le socialiste était alors donné à 15% avant de chuter finalement à 6%.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Autre résultat de ce sondage Elabe, Marine Le Pen chute à 15% au premier tour, juste devant Éric Zemmour à 14%. Tous les candidats de gauche font quant à eux un score à un chiffre. Jean-Luc Mélenchon 8%, Yannick Jadot 7% et Anne Hidalgo enfin à 3% des voix. L'homme suspecté d'avoir blessé Éric Zemmour au poignet en l'agrippant à son meeting ne sera présenté demain à un juge d'instruction. Le parquet va demander l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire ainsi que le placement du suspect sous contrôle judiciaire. Nous n'avions plus connu de situation aussi préoccupante depuis le 3 novembre 2020. Plus de 59 000 personnes ont contracté le virus du Covid au cours des dernières 24 heures en France. Plus de 2 300 malades hospitalisés en soins critiques. Au même moment, les enfants de 6 à 10 ans, pas encore éligibles au vaccin, sont les plus touchés par le virus, avec un taux d'incidence de 979 cas pour 100 000 dans cette tranche d'âge. De quoi encourager le gouvernement sur la voie de la vaccination des 5-11 ans. Jean Castex a annoncé hier vouloir commencer le 20 décembre. C'est une perspective qui ne plaît pas à tous les parents, comme l'a constaté Benjamin Péter aux abords d'une école toulousaine.
Je trouve qu'elle est trop petite et qu'on n'a pas assez de recul sur le vaccin.
Serge a beau être vacciné, il n'en veut pas pour sa fille de 7 ans. Élodie, elle, est soignante. Elle n'est pas contre le vaccin, mais pas pour son fils de 6 ans.
Pour le moment, non, on va voir. Je pense que plutôt les personnes âgées, la vaccination devrait être obligatoire pour tous les adultes. Pour les personnes à risque surtout, mais après pour les enfants, non.
Anne, elle aussi, est très hésitante pour ses deux enfants, mais elle n'aura pas à se poser la question tout de suite.
Je suis très contente, mes enfants viennent tous les deux d'être positifs et n'ont aucun symptôme. Du coup, je n'aurai pas la vaccination pour l'instant, parce que pour l'instant, on est opposé à la vaccination. Nous, on est vaccinés, mais nous, on a plus de 40 ans, on ne devait plus avoir d'enfants. J'estime que je ne suis pas en pleine croissance avec les hormones et voilà.
Bertrand, en revanche, est prêt à prendre un rendez-vous pour son fils de 9 ans, sans aucune appréhension.
Je suis prêt à le faire, ma fille a été vaccinée, l'aînée, qui était éligible, on ne s'est pas posé la question. Donc s'il faut le faire pour le petit, oui, si ça peut permettre de limiter la diffusion du virus, oui, on le fera. Si on ne fait rien, on va continuer à vivre comme des reclus.
Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, indiquait hier soir qu'il espérait pouvoir ouvrir la vaccination pour tous les 5-11 ans dès le 20 décembre. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
La campagne de rappel vaccinal bat son plein. 687 000 doses de rappel injectées dans les dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Vous êtes très nombreux à demander du Pfizer, mais les centres de vaccination envoient des SMS en amont des rendez-vous et indiquent que du Moderna pourra être proposé en priorité à la place du Pfizer. Céline Giraud.
Pfizer plutôt que Moderna. En pleine campagne de rappel, la préférence des candidats au vaccin est très marquée. Et pourtant, le message des autorités sanitaires est clair. Les deux vaccins sont interchangeables. Le Moderna est même préconisé pour les plus de 30 ans. Les explications de Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
Il faut dire et il faut le répéter aux gens de plus de 30 ans, il n'y a aucune contre-indication à vacciner en Moderna pour ceux qui ont eu du Pfizer les deux premières doses. Troisième dose, il faut faire une demi-dose de Moderna. Parce qu'on s'est rendu compte que le Moderna était plus dosé que le Pfizer. Il était plus efficace, mais il générait chez les gens jeunes des effets secondaires qui étaient plus importants. Et c'est pour ça qu'il a été recommandé de ne vacciner les gens qu'au-delà de 30 ans.
Et si l'on propose en priorité le Moderna en centre de vaccination, c'est aussi pour une raison logistique. Chaque flacon de Moderna contient 24 doses. Une fois entamé, il faut suffisamment de candidats pour ne pas les perdre. Le Pfizer, qui compte 6 doses par flacon, est donc envoyé en priorité dans les pharmacies où le trafic est moins important. À ce jour, il y a 20 millions de doses de Moderna à écouler, contre 5 seulement de Pfizer.
Céline Giraud, chef du service société d'Europe 1. Des contrôles seront effectués la semaine prochaine dans les entreprises, annonce Elisabeth Borne, la ministre du Travail, pour vérifier que l'extension du télétravail souhaitée par le gouvernement est bien respectée. L'exécutif demande aux employeurs d'autoriser le travail à distance 2 à 3 jours par semaine. Elles sont déjà restées fermées 16 mois. Les discothèques doivent encore baisser le rideau 4 semaines. C'est sans doute la mesure la plus lourde décidée hier par le gouvernement pour casser cette cinquième vague de Covid. Nouveau coup dur pour les patrons de boîtes de nuit qui craignent d'y trouver le coup de grâce. Ils ont été entendus ce matin par le ministre des PME, Alain Griset, ainsi que les autres professions fragilisées par les dernières annonces. On pense à tout le secteur de l'événementiel, Élise Dangean. À tout cela, le gouvernement promet des aides.
Absolument, des aides très ciblées dont on commence à voir les contours. Le gouvernement prévoit notamment de muscler le dispositif actuel de prise en charge des coûts fixes pour qu'il couvre l'intégralité des charges des entreprises impactées, soit par des fermetures, soit par des annulations, et non 90% comme c'est le cas actuellement. En revanche, on ne sait sait toujours pas quel niveau de perte de chiffre d'affaires sera retenu pour avoir droit à cette aide. Le dispositif pourrait être prolongé au-delà du 31 décembre si nécessaire. Concernant l'activité partielle, eh bien, elle devrait être remise en place et prise en charge à 100%, donc sans reste à charge pour l'employeur. Mais le report du remboursement des prêts garantis par l'État est, lui, exclu par le gouvernement. C'est pourtant une demande très appuyée des représentants de l'événementiel et de ceux des discothèques qui se demandent bien comment ils vont pouvoir faire des réserves financières avec un mois de fermeture. En tout cas, Bercy promet de retravailler ces mesures et de rendre une réponse la plus rapide possible.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1 à suivre. Dans quelques minutes, l'invité éco à 22h20, nous entendrons justement l'appel à l'aide des traiteurs de France qui demandent des aides d'urgence pour sauver leur secteur.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Une fuite de gaz pourrait être à l'origine de l'explosion qui a provoqué l'effondrement d'un immeuble d'habitation la nuit dernière à Sanary dans le Var. Un jeune homme de 30 ans y a trouvé la mort. Le temps joue contre nous, s'inquiète le chef des pompiers du Var qui recherche toujours des survivants dans les décombres, Océane Théard.
Oui, la centaine de pompiers sur place doit enlever un à un les débris de pierre et de béton avec une grue pour tenter de retrouver ces deux personnes prises au piège. Il s'agirait d'une mère et de son fils qui habitaient le rez-de-chaussée de cet immeuble d'après la préfecture du Var. Les secours ont déjà retrouvé le corps d'un homme d'une trentaine d'années ce matin, décédé dans l'explosion. Probablement un père de famille dont la femme et le bébé ont été secourus un peu plus tôt dans la matinée. Trois autres blessés légers ont été transportés à l'hôpital ce matin. Et après cette déflagration qui a fait trembler la ville cette nuit, l'émotion étreint ses 15 000 habitants, raconte Olivier. Il vit à Sanary-sur-Mer depuis 20 ans.
Ça fait partie de toutes les conversations aujourd'hui, quoi. J'ai vu des gens pleurer parce qu'ils ne pouvaient pas retenir leurs larmes. Ils sont vraiment touchés et sincères, en fait, dans ce témoignage de deuil et de douleur qu'ils ont concernant nos concitoyens qui ont perdu la vie cette nuit, quoi. La ville est en deuil.
Pour l'instant, la piste de la fuite de gaz est étudiée d'après la préfecture du Var. Une enquête de police est en cours.
Océane Théard. Vidéoconférence au sommet cet après-midi entre deux superpuissances. Joe Biden et Vladimir Poutine ont surtout évoqué la question de l'Ukraine, à la frontière de laquelle la Russie a massé une armée, ce qui fait craindre aux Occidentaux l'imminence d'une offensive militaire. Le président américain met en garde son homologue russe contre toute escalade et il menace de fortes sanctions économiques le cas échéant. Emmanuel Macron doit justement s'entretenir avec Vladimir Poutine et avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les prochains jours. L'un des meurtriers présumés du journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été interpellé aujourd'hui à Roissy alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour Riyad. Ancien membre de la garde royale saoudienne, il était recherché par Interpol. Une annonce qui intervient trois jours seulement après la visite d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite et sa poignée de main controversée au prince héritier Mohamed Ben Salman. Le PSG n'a fait qu'une bouchée de Bruges ce soir au Parc des Princes. C'était pour les Parisiens le dernier match de la phase de poule en Ligue des Champions. Leur ticket pour les huitièmes, de toute façon assuré, c'était un match sans enjeu, à part peut-être celui du panache. Et sur ce plan, eh bien, le PSG a assuré le spectacle. Cédric Chasseur, score final 4-1 pour le PSG.
Oui, et au-delà du score, pendant au moins 45 minutes, le PSG nous a offert un visage séduisant avec un but au bout de 71 secondes de Kylian Mbappé qui a lancé la soirée. L'international français ne s'est pas arrêté là, inscrivant ensuite un doublé 5 minutes plus tard avant d'offrir le but du 3-0 à Messi juste avant la mi-temps. Un premier acte d'une très bonne facture des Parisiens que souligne Mauricio Pochettino.
Je suis content du niveau de jeu montré aujourd'hui, surtout en première période. C'était un pas en avant. On a vu des améliorations dans le jeu, dans l'entente entre les joueurs. Et je suis content pour eux parce qu'ils avaient besoin d'une performance comme celle-ci.
Alors on retiendra tout de même qu'au retour des vestiaires, Paris est retombé dans ses travers, de la nonchalance, un manque d'effort qui a conduit à la réduction du score de Lang, un but qui a eu le mérite de réveiller les joueurs de la capitale, ce qui a amené le but sur pénalty de Messi, un doublé lui aussi ce soir en fin de match. Score final donc 4-1, Paris attend désormais de connaître son adversaire, ce sera forcément un premier de groupe, un gros morceau donc, tirage au sort lundi à midi.
Ça va peut-être se corser sur la suite du parcours. Cédric Chasseur en direct du Parc des Princes pour Europe 1, merci Cédric. C'est une page qui se tourne pour Roland Garros et le tournoi de Bercy. À 56 ans, Guy Forget a annoncé qu'il quittait son poste de directeur du Grand Chelem parisien et du Masters 1000. C'est donc une surprise, Jean-François Pérez. Quelles en sont les raisons ?
Eh bien, si l'on en croit Guy Forget, c'est l'absence de confiance et de dialogue avec la nouvelle équipe en place qui a abouti à ce départ surprise. Celui qui quittera ses fonctions à la fin du mois s'est confié au quotidien L'Équipe. La communication n'a jamais existé avec Gilles Moreton, déplore-t-il. Le nouveau président de la FFT lui aurait proposé une redéfinition de son poste qu'il aurait refusé. Certaines sources évoquent également un différend salarial, l'impact médiatique de la présence de Forget dans un dossier d'évasion fiscale immobilière, même si l'ancien joueur a été blanchi par le comité d'éthique de la fédération, et puis sa proximité avec l'ancien et très clivant président Bernard Giudicelli. C'est donc la fin de plus de 40 ans de vie commune qui auront marqué le tennis français. Guy Forget a été tour à tour numéro 4 mondial, vainqueur de la Coupe Davis comme joueur, puis capitaine. Il avait pris la direction du tournoi de Bercy en 2012, puis de Roland-Garros en 2016. Un ambassadeur du tennis tricolore qui se dit à la fois triste et soulagé. Dans un communiqué, la très mutique FFT se donne quelques jours pour désigner son successeur. Yannick Noah, lui, met les pieds dans le plat. « Mon ami s'est fait virer », indique-t-il sur les réseaux sociaux.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Le temps pour ce mercredi, Marlène Duret, ce sera bien perturbé, en particulier près des frontières de l'Est.
Et oui, c'est la perturbation en fait qui a donné beaucoup de pluie et du vent à l'ouest aujourd'hui, qui traverse le pays et qui gagne en effet tout le flanc est du territoire. Et donc cette perturbation va bien résister de l'Alsace à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, en passant évidemment par la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. La neige pourra tomber assez bas dans les Alpes. Alors quand on dit bas, 500-600 mètres, c'est bas. Et il faudra être prudent, notamment sur les axes routiers. On attend vraiment une bonne couche neigeuse. Le risque d'avalanche également est maintenu. Il est de 3 sur une échelle de 5. Beaucoup de pluie en Corse, surtout sur sa partie ouest, hein, assez agitée d'ailleurs. Les Pyrénées aussi, avec des averses de neige assez conséquentes, des 600 mètres. Bonnes averses aussi, de bonnes averses dans le Pays Basque toute la journée. Hein. Des averses plus localisées, moins fréquentes sur un bon quart sud-ouest, mais quand même, un risque qui sera aussi présent sur les côtes Atlantique et de la Manche, où là, les averses peuvent prendre un petit caractère orageux avec un peu de grésil. Voilà, toutes les régions qui n'ont pas été citées, bon, c'est calme. Les températures en journée seront généralement en baisse. Il fera entre 4 et 9 en moyenne. En général, 8 à Paris. Ça peut monter jusqu'à 10-13 degrés autour de la Méditerranée. Et puis en Corse, 15-16.
Voilà. Merci beaucoup, merci Marlène Duret. On vous retrouve à minuit pour un dernier point météo avec vous. Dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamot. Restez avec nous, à tout de suite sur Europe 1. Avec Didier Hamot, bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
On commence comme d'habitude avec Wall Street qui poursuit sur sa lancée d'hier, encore en forte hausse en clôture ce soir.
Wall Street, oui, qui poursuit sa remontada, hein, rassuré par les derniers rapports scientifiques sur le variant Omicron, rassuré aussi par les annonces de Pékin. Prêt à soutenir le secteur immobilier chinois en difficulté, ça donne un Dow Jones en hausse d'1,4%, 35 719 points. Surtout le Nasdaq gagne plus de 3%. Les valeurs de technologie s'envolent, plus 3,03% exactement, 15 687 points. Apple montre la voie, plus 3,5% au plus haut historique, 171 $. Apple est au sommet. Et le broker Morgan Stanley vise 200 $ sur le titre Apple. Grimpe aussi à Intel qui monte de 3%. Alors là, on est à 52,57 $ alors que sa filiale spécialiste des puces pour voitures autonomes va entrer en bourse pour une valeur de 50 milliards $. Intel s'envole de 3%. Les autres grosses valeurs de technologie montent aussi de façon très nette. Tesla plus 4%, Microsoft plus 2,7%, Amazon plus 2,8%. Il y a aussi un grand bénéficiaire cette semaine de ce rebond, c'est le pétrole qui grimpe encore de 2,2%, qui avait beaucoup baissé ces dernières semaines et qui remonte à 71,60 $ le baril. Et donc tout le secteur grimpe, comme Exxon plus 1,1%, Shell plus 1%, Chevron plus 1,5%. Il y a toujours l'euro qui est à la traîne, qui reste stable sous les 1,13 face au dollar.
La bourse de Paris, elle aussi, a terminé en nette progression de près de 3%.
Même scénario, oui, 2,91% sur le CAC 40, 7 065 points, donc le CAC qui repasse les 7 000 points. Là aussi, un effet d'entraînement avec tout le secteur du luxe qui profite de la détente de la situation en Chine. Hermès plus 4%, Kering plus 5%, LVMH et Dior grimpent de 5% aussi, puis d'autres valeurs industrielles. Regagne 4 à 6% comme Air Liquide, Mersen, Eramet ou les fabricants de semi-conducteurs qui avaient pas mal baissé. STM et Soitec reprennent ce soir 6%.
Exception du jour, Didier, Atos n'a pas profité de l'euphorie du jour. Atos en recul de 3%.
Toujours aussi décevant, le groupe Atos, 36,43 €. Moins 3%, le groupe de services informatiques tente de se réorienter vers des marchés d'avenir comme le cloud. Atos a signé aujourd'hui un accord de reprise du groupe Cloud Reach qui emploie 600 personnes dont le siège est à Londres. Atos n'en profite pas pour l'instant, moins 3%, donc encore en baisse. Le titre est à 36,43€ à la clôture. Les autres places financières sont en hausse, globalement ça monte nettement hein, sur le DAX à Francfort plus 2,8%, Bruxelles plus 1%, Madrid plus 1,3%, Amsterdam plus 3,5% et le CAC 40 donc en hausse, forte hausse de 2,91%, 7065 points.
Merci Didier Hamo de Boursier.com.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente l'invité éco.
Et pendant cette période des fêtes de fin d'année, l'événementiel craint de payer encore le prix fort dans la lutte anti-Covid. Les traiteurs demandent des aides d'urgence. L'invité éco ce soir, Claire Pénarin, vice-présidente du réseau Traiteurs de France. Elle répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Claire Pénarin.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de la maison Pénarin Traiteur. Vous êtes située en Bretagne, à Quimper et à Rennes. Et vous êtes par ailleurs la vice-présidente du réseau Traiteurs de France. Alors si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que hier, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont renouvelé leurs recommandations aux entreprises et aux particuliers de limiter, voire d'annuler tout ce qui pouvait être moment festif, hein, comme on pourrait le dire, pour la fin de l'année. À l'exception, bien évidemment, des moments, par exemple, de Noël ou du réveillon du jour de l'an. De façon extrêmement concrète, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu de nouvelles annulations après cette recommandation renouvelée ?
Absolument. Aujourd'hui, on fait face de nouveau à une nouvelle vague d'annulations, alors qui a commencé, je dirais même, hier dans l'après-midi. Hein, on a senti que ça s'accélérait un petit peu. Au niveau du réseau Traiteurs de France, on a refait les comptes, malheureusement, et on arrive aujourd'hui à plus de 700 annulations depuis les dernières annonces, enfin en tout cas les annonces d'Olivier Véran, ce qui représente grosso modo 10 millions de chiffres d'affaires perdus.
Pour qu'on ait une idée, ça représente quoi par rapport à la période normale des événements de fin d'année ?
Alors là, on est grosso modo sur déjà une perte de 60-70% du chiffre d'affaires par rapport à un mois de décembre normal.
Ah oui, donc c'est extrêmement conséquent. Les annulations que vous arrivez aujourd'hui arrivent déjà après un gros paquet d'annulations à la suite de la cinquième vague fulgurante et des premières demandes du gouvernement pour les entreprises notamment d'annuler les moments festifs.
Oui, tout à fait. Dès les annonces de la semaine dernière, effectivement, on a déjà senti qu'il y avait un mouvement qui se créait, hein, donc effectivement beaucoup d'annulations. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que à ces annulations se rajoutent des changements de jauge sur les événements, certains événements qui réduisent de moitié, par exemple, leur nombre d'invités.
C'est-à-dire pour ceux qui les maintiennent, dans tous les cas, ils ne sont pas maintenus dans les conditions où c'était prévu initialement.
C'est ça. C'est-à-dire que, alors certains les maintiennent dans les mêmes conditions, j'ai envie de dire, mais on doit quand même faire face à aussi des réductions de jauge.
Et c'est d'autant plus inquiétant que ça arrive à un moment où votre profession était enfin en train de vraiment repartir. C'est-à-dire que cette fin d'année 2021 s'annonçait assez historique parce que tout le monde avait envie de se regrouper un peu et puis de saluer les efforts des uns et des autres dans cette période de crise.
C'est ça. C'est vrai que depuis la rentrée, on était vraiment sur une bonne lancée. On a redémarré très très fort entre les événements qui se font traditionnellement à la rentrée et puis les reports d'événements qui n'ont pas pu se faire au printemps. Donc on était vraiment sur une très bonne dynamique. Et puis là, de façon assez foudroyante et très fulgurante, enfin, c'était vraiment très très rapide le début des annulations et la vitesse et l'ampleur que ça a pu prendre en très peu de temps finalement.
Et j'imagine que la conséquence sur l'emploi, elle est aussi directe parce que vous faites partie de ces professions qui empochent, comme on dit, beaucoup d'extras, mais vous les avez, j'imagine, du coup déjà réservés pour ces événements et il faut là aussi tout remettre à plat.
Tout à fait. J'ai moi-même, dans mon entreprise, j'ai annulé encore ce matin deux équipes d'extra qui étaient prévues pour la fin de la semaine. Donc oui, effectivement, ça a des conséquences sur nous et sur toute la filière et sur toutes nos parties prenantes.
Alors sur l'antenne d'Europe 1 ce week-end, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit « le quoi qu'il en coûte, il est fini, mais on va mettre en place le quoi qu'il arrive ». Donc vous en faites partie, c'est-à-dire des aides ciblées pour vous aider. Vos représentants ont rencontré aujourd'hui Alain Griset, hein, qui est votre ministre, qui est le ministre des PME. De façon très concrète, qu'est-ce qu'il vous a promis ?
Alors, pour l'instant, il ne nous a rien promis. On a émis des demandes qui portent donc sur des aides rapides. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on n'a pas eu de réponse. Mais en tout cas, on nous a promis des réponses qui seraient très rapides.
Très rapide, ça veut dire quoi ? D'ici à la fin de semaine, on laisse passer les fêtes et on voit quelle est la situation ?
Alors, on espère que ce sera d'ici la fin de semaine. Très clairement, nous, on ne pourra pas attendre les fêtes pour avoir des réponses. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires du mois de décembre, il s'écroule. C'est-à-dire que les aides, il faudra les remettre en place au mois de décembre.
Mais l'avantage, c'est que la mécanique, on la connaît. Il faut juste là trouver le niveau de baisse du chiffre d'affaires à partir duquel, j'imagine, les aides vont se déclencher. Mais on va sûrement copier ce qui existait dans les pires moments de la crise Covid.
C'est ça. Écoutez, on a en tout cas fait des demandes dans ce sens. On espère être entendu. Jusqu'à présent, l'État nous a soutenus. Je pense que j'ose espérer que ça continuera.
Alors, vous avez été soutenu, mais malgré tout, hein, votre profession, celle des traiteurs, sort quand même très affaiblie de tous ces mois de crise parce que les mariages, certes, se reportent ou autres, mais il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas tout rattraper. Là, par exemple, ce que vous allez rater au mois de décembre, ça ne va jamais être récupéré. Il va y avoir des morts dans votre secteur. Hein.
Alors, pour l'instant, on n'a pas de mort. Et d'ailleurs, on s'en félicite parce que ça va faire 2 ans quand même qu'on doit se battre. Effectivement, on est sur des entreprises qui ont énormément souffert. Et notamment en 2020, il ne faut pas oublier qu'on a arrêté de travailler en mars 2020, que le fonds de solidarité s'est mis en place à partir de décembre 2020. Donc, on a quand même tenu pendant 10 mois sans aucune autre aide que le chômage partiel et les exonérations de charges, qui étaient déjà beaucoup, mais effectivement pas suffisantes. Donc, ça veut dire que les entreprises de traiteurs que nous sommes ont clairement puisé dans leurs capitaux propres.
Puis donc c'est toute une chaîne là derrière vous, parce que j'imagine que vous aviez déjà passé les commandes de nourriture auprès des producteurs, auprès de vos fournisseurs.
Absolument, absolument, absolument. Là, on parle d'annulation à très court terme. On est sur des annulations là, aujourd'hui, qui s'annulent pour la fin de la semaine. Donc effectivement, ça veut dire que nous, on a déjà passé nos commandes. Tout à fait.
Et donc là, il faut dédommager tout le monde. J'imagine que le ministre a été rassurant là-dessus. C'est toute la chaîne qui va être dédommagée ?
Alors, pour l'instant, on a surtout évoqué le cas des traiteurs de réception avec le ministre. Après, j'imagine que chacune des filières qui sera concernée émettra les doléances qui s'en suivent.
Dans quel état d'esprit vous êtes ? Parce que je rappelle que vous aussi, vous avez une activité de traiteur. Vous êtes directrice générale de la maison Pénarin Traiteur à Quimper et à Rennes. À un moment, vous dites quoi ? On n'en peut plus, on comprend la situation sanitaire, mais ça commence à bien faire.
Alors oui, bien sûr, on la comprend, on est humain avant toute chose. Mais effectivement, en tant que chef d'entreprise, c'est très compliqué. C'est compliqué pour nous parce que c'est les montagnes russes là depuis presque 2 ans. C'est aussi compliqué pour nos salariés. Et il faut le dire, c'est que on leur demande beaucoup. Alors on leur demande d'être sur certaines périodes à 100% et puis sur d'autres à zéro, et on va les remettre en chômage partiel. Je vous avoue que là c'est quand même un peu la douche froide dans les équipes parce que la personne s'y attendait. Oui. Donc c'est effectivement épuisant pour tout le monde.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était Claire Pénarin, qui est la vice-présidente du réseau Traiteurs de France, qui était notre invitée ce soir. Moi, je ne vous dis pas à demain, parce que demain, grande soirée de football à suivre sur Europe 1. On se retrouve donc jeudi soir, 22h20.
En effet, merci Emmanuel Dutheil. Mais d'ici là, on vous retrouvera avec Elisabeth Assayac de 13h à 14h pour La France Bouge, demain sur Europe 1 pour une émission consacrée à la cyberdéfense. Vous recevrez à cette occasion une ancienne agent secret, Elena Poincet, qui a fondé la société Tetris, société spécialisée dans la neutralisation des cybermenaces.
C'était l'invité éco avec BNP Paribas. Des conseils, solutions et des équipes dédiées pour accélérer la croissance de votre entreprise. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Un coup d'œil à la une de vos quotidiens pour demain mercredi. Libération s'inquiète du sort des pays les plus pauvres dans la lutte anti-Covid. Vite leur dose, car un an après la première vaccination en Europe, seuls 8% des habitants des pays les plus démunis ont reçu une première injection, contre 65% dans les pays les plus développés. Une inégalité choquante et qui entretient en plus la pandémie. C'est demain la sortie au ciné du nouveau West Side Story. Libé s'enthousiasme pour le remake exaltant de Spielberg. Pour 20 minutes, c'est simple. West Side Story revit en salle donc dès demain. Une actualité forte demain encore chez nos voisins allemands, avec des conséquences pour toute l'Europe. Le Figaro se penche sur les défis du nouveau chancelier Olaf Scholz, ministre des Finances du gouvernement d'Angela Merkel. Il sera élu demain à la tête d'une coalition inédite qui allie le SPD, les Verts et les Libéraux. Et Olaf Scholz qui va donc prendre la tête de cette coalition, au programme éloigné des positions françaises, note La Croix, qu'on parle de l'Europe, d'immigration ou des énergies renouvelables. renouvelable. Il est 22h30 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On accueille Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Très heureux ce soir car votre club fétiche a frappé fort.
Oui.
Pour le panache, il y avait plus d'enjeux, certes.
Oui,
mais
c'est pas mal.
Deux doublés.
N'en faisons pas. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qui se passera au mois de mars, à partir début mars. Et là, les choses sérieuses vont reprendre.
Vous n'êtes pas blasé quand même, Olivier?
Un petit peu. Vous avoue que je suis un peu déçu par le jeu du PSG en ce moment, mais je ne suis pas le seul. Donc, souhaitons que...
4 buts à 1, c'est factuel quand même.
Oui, mais c'est Bruges, et puis il n'y avait pas d'enjeu. Donc, remettons les choses bien en place.
Bon.
Hein,
vous êtes déjà dans les 8e.
Humbles. Bon. Oui, bien évidemment. Attendons le tirage des 8e. Non, mais là, c'est très bien. C'est très bien, comme ça.
Bon.
Bon, c'est très bien. Écoutez, on vous retrouve à 23h, nous.
À tout à l'heure,
Alexandre.